jusqu'à l'âge de 5 ans gratuitement, ce qui est une politique qui est très très populaire, qui a été mise en place par notre président il y a quelques années.
Est-ce que les femmes qui succombent pendant l'accouchement sont seulement celles qui ont choisi d'accoucher par césarienne ou il y en a aussi qui accouchent par voie basse et qui finissent par mourir?
Je ne suis pas médecin, mais...
Oui, dans votre expérience, parce que vous côtoyez maintenant beaucoup de personnes, beaucoup de familles.
Oui, bien sûr, parce qu'il y a toujours des complications. Il arrive que même par voie basse, on ait des cas de décès, mais le pourcentage est très inférieur au cas de décès suite à une intervention par césarienne.
Est-ce que toutes les femmes ont vraiment accès aux soins de santé quand elles sont enceintes, même dans les coins les plus reculés du Burundi?
Le Burundi est un pays pas trop grand en superficie. En général, l'accès est là. En général, presque tout le monde a accès. Il y a beaucoup d'hôpitaux publics, mais il y a aussi de petits centres de santé qui se trouvent dans les communautés, dans les villages. Au Burundi, on n'a pas un problème d'accès aux soins. Non. C'est plutôt un problème de mentalité, de connaître l'ampleur du phénomène. C'est aussi peut-être parce qu'on a un staff qui sont assez bien formés, mais peut-être on a besoin d'un renforcement des capacités du personnel soignant. On a aussi besoin d'équipements médicaux. Et c'est surtout ce volet équipements médicaux, renforcement de capacités qui fait que j'ai fait ce voyage jusqu'à chez vous pour essayer de trouver des hôpitaux, des universités qui peuvent venir éventuellement appuyer ce qui se fait déjà.
Et donc, Burundi Bwiza lutte pour réduire la mortalité maternelle, mais aussi infantile. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous menez comme action pour changer la donne?
Nous intervenons à trois niveaux. Nous sommes au stade de démarrage. Nous avons pensé que la première chose, parce que nous n'avons pas encore beaucoup de ressources, nous avons beaucoup de volontaires, mais nous n'avons pas encore beaucoup de ressources matérielles et financières. Donc, on s'est concentré initialement sur le volet social. Présentement, on essaie d'identifier les familles qui ont connu ce drame, qui ont perdu une maman ou une sœur, et nous essayons de les identifier, d'entrer en contact avec ces familles, de passer les voir et apporter un soutien social. Mais dans le long terme, dans les jours à venir, nous sommes en pourparlers pour avoir un partenaire avec le ministère de la Santé. Dès qu'on l'aura, on pourra intervenir un peu plus, et essayer d'apporter notre appui, notre contribution dans les efforts qui sont menés par le ministère de la Santé.
En rendant visite à toutes ces familles qui ont perdu une sœur, une mère ou une fille pendant l'accouchement, qu'est-ce que vous visez?
On a deux objectifs. Le premier objectif, c'est d'abord les réconforter, leur dire que, parce qu'on a constaté que beaucoup, bon, peut-être j'ai été très chanceux, beaucoup dépriment après de tels drames, beaucoup perdent goût à la vie. Souvent, les pères de famille n'y s'y attendent pas. Donc, psychologiquement, ils ne sont pas prêts en termes de moyens pour s'occuper de l'enfant qui reste, parce que souvent, ils ont d'autres enfants. Il arrive qu'il y ait des cas où la maman décède alors que c'était leur premier enfant, leur première naissance, mais d'autres cas, elle décède parce que c'est leur sixième, cinquième enfant. Ça aussi, le fait d'avoir plusieurs enfants augmente aussi également les chances de décès.
Par rapport aux objectifs que vous visez et depuis que vous avez commencé, est-ce que vous pensez que vos actions promettent quelque chose de positif?
Oui, nous sommes très optimistes et en tenant compte du feedback, de ce que à chaque fois qu'on mène une action, comment les gens réagissent aux activités que nous menons, nous sommes très optimistes parce que non seulement la plupart des familles que nous avons visitées sont allées au-delà d'un simple remerciement, et beaucoup ont adhéré à notre association et ils trouvent que notre visite, notre contact, notre outreach leur a été très bénéfique et donc nous pensons que notre action sera très bénéfique pour la société en général. Et je vous rappelle qu'on est seulement vieux de 8 mois, donc on n'est que début. Nous pensons que nous avons déjà fait pas mal, mais beaucoup reste à faire.
Est-ce que vous établissez aussi des partenariats avec d'autres ONG locales ou africaines ou internationales?
Oui, c'est justement dans ce cadre que nous avons fait le déplacement jusqu'ici aux États-Unis, parce que non seulement nous cherchons les ONG internationaux comme ici, mais nous avons commencé par les ONG qui ont une mission similaire chez nous. Il n'y en a pas beaucoup qui interviennent dans la santé maternelle, mais il y en a beaucoup qui interviennent dans le suivi des enfants ou dans la nutrition de la maternelle, mais on est tous complémentaires. On essaie aujourd'hui de les identifier afin de pouvoir coordonner, de pouvoir harmoniser nos actions.
Sur Facebook, nous avons des auditeurs qui ont des questions à poser. Moussa Kone, lui, se demande si le taux de mortalité maternelle, qui est très élevé en Afrique, n'est pas dû au manque de centres de santé de proximité ou au manque des équipements des hôpitaux ou l'argent, donc la pauvreté des populations.
C'est une très bonne question parce que je pense que tous ces trois facteurs sont tous des raisons très pertinentes qui font que le taux de mortalité en Afrique est très élevé. Dans beaucoup de nos villages, les centres de santé sont pas tout près, mais aussi même là où il y a un centre de santé, souvent nos mamans n'ont pas les moyens de se déplacer, d'appeler pour dire au secours, je me sens pas très bien, ou le moyen de passer les examens qui sont requis pour toute femme enceinte avant l'accouchement. Donc la pauvreté est un facteur très important. C'est pour cela que je vous disais que nous intervenons à trois niveaux. Le premier niveau, c'est la sensibilisation et le dépistage. Ça, c'est le programme qu'on a appelé Imenia en France. En Kirundi, ça veut dire connais-toi toi-même, parce que beaucoup de mamans meurent parce qu'elles ne se connaissent pas. Ils ne savent pas comment leur corps va réagir à telle situation. Par exemple, mon cas personnel, si on faisait un dépistage de la réactivité par rapport à l'anesthésie de manière systématique, peut-être que c'est la qualité de l'anesthésie qui a été fatale pour mon épouse, peut-être c'était la quantité. On n'est pas très sûr, donc il faut dépister. Beaucoup de mamans meurent par ce qu'on appelle le saignement excessif. Lorsqu'on vous subissez une césarienne, votre sang ne coagule pas. Lorsque vous avez subi un examen à temps, vous le savez, et lorsque vous allez accoucher, un peu comme la maman qui porte le VIH, il y a un médicament que vous pouvez prendre avant qui va favoriser la coagulation du sang et diminuer les chances de décès.
Un autre auditeur, Ben Benoît, lui c'est depuis la RDC qu'il pose sa question. Il se demande qu'est-ce qu'on peut faire pour éradiquer ces risques qu'encourent les femmes. Tout à l'heure, vous avez parlé de la sensibilisation que vous êtes en train de faire, mais qu'est-ce que les pouvoirs publics peuvent faire davantage, que ce soit au Burundi ou dans d'autres pays africains, pour éviter que beaucoup de mamans perdent leur vie quand elles donnent naissance?
Éradiquer totalement, cela est très difficile.
Ou diminuer le risque.
Diminuer, oui, très, très bien. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a des pays de référence comme le Japon et le Cuba, qui sont les deux pays qui sont aujourd'hui à ex aequo avec le plus bas taux de mortalité, leur secret que j'ai découvert réside au niveau du suivi de nos mamans dès le premier jour. Dès qu'elles savent qu'elles sont enceintes, ces mamans ont un suivi à proximité. C'est des pays qui ont la chance d'avoir beaucoup de médecins. Mais une autre chose qu'en Afrique, que nous pouvons faire, nous avons beaucoup de sages-femmes et beaucoup d'infirmières. Le constat est que souvent, chez nous, ces professionnels de la santé, on ne leur confie pas assez de tâches, pas assez de responsabilités. Souvent, il n'y a que le docteur ou le gynéco, le spécialiste, qui est normalement la personne habilitée ou qui a les connaissances pour intervenir correctement. Dans d'autres pays, ce sont les infirmières, les sages-femmes qui interviennent dans un premier lieu. Elles sont plus nombreuses, donc cela, c'est un palier par rapport au manque de personnel. Donc, il faut que le personnel que chez nous, on qualifie de pas assez qualifié, qu'on leur donne les capacités pour intervenir, parce que ce sont elles qui sont au contact avec nos mamans.
Tout à l'heure, on parlait des infrastructures. Il y a un auditeur, Jean Mukinda, depuis le Kasaï central en République démocratique du Congo. Il témoigne qu'il vient aussi de perdre sa femme, qui avait près de 30 ans après l'accouchement à domicile, à cause de la distance de leur habitation et le centre de santé qui est d'environ 8 à 9 kilomètres, ça devait représenter rien. Mais il dit que sans une bonne route, et puis il n'avait plus ce jour-là, et puis c'était pas facile d'arriver rapidement sur le lieu même, parce qu'il y avait même pas de moyens de transport. Et finalement, quelqu'un est venu aider sa femme à accoucher à domicile. Malheureusement, il a perdu la vie.
C'est vraiment dommage. Et ça, ce sont des réalités. Ce sont nos réalités africaines, comme vous le dites, et qui sont très courantes chez nous parce que, comme il vient de le dire, c'est tout un système. Le mauvais état de l'infrastructure routière qui a intervenu. Il y a aussi le manque de moyens de communication parce que il faut pas attendre que ce soit le dernier jour. Si vous êtes dans un village éloigné ou dans un lieu éloigné, déplacez-vous. Assurez-vous d'arriver au centre de santé au moins même 4-5 jours. Mais encore une fois, ça, le problème de moyens financiers qui dit, tu dis, écoute, j'arrive là-bas, 5 jours à l'hôpital, ça va coûter de l'argent pour le continent. Je pense qu'il faut d'abord qu'il y ait une politique maternelle claire qui fait que tous les mamans, d'abord dans un premier lieu, puissent donner naissance gratuitement. Non seulement ça, mais aussi les services qui accompagnent, c'est-à-dire dès la naissance et aussi la prise en charge de l'enfant jusqu'à l'âge de 5 ans. Ce qui est une réalité dans certains pays, mais ça devrait être une généralisation. Ça, c'est un premier facteur. Le deuxième facteur, comme je l'ai souligné, il faut sensibiliser. Il faut que les mamans sachent qu'est-ce qui peut causer leur mort. Ça, c'est la deuxième chose. Et troisième et quatrième chose, il faut renforcer les capacités humaines, il faut renforcer l'équipement.
Parmi les conseils que vous avez donnés, moi j'ai beaucoup aimé quand vous avez dit que c'est mieux que les mamans arrivent au centre de santé 4-5 jours avant d'accoucher. Mais est-ce que toutes les mamans ont connaissance de la date butoir où elles doivent accoucher?
Justement, c'est pour cela que je disais que le premier programme qui va sensiblement réduire, et que c'est le secret des pays, c'est le suivi avant. C'est-à-dire, lorsque vous avez fait un suivi bien avant, vous devez entreprendre un échographe à temps, on peut estimer. C'est-à-dire, lorsqu'on fait une estimation et à un mois avant la date d'accouchement, vous repassez pour un autre check-up. C'est pour ça que dans notre ONG, la particularité, comme les mamans n'ont pas le moyen de se déplacer, c'est nos volontaires qui allons vers elles. Nous identifions les mamans, tout maman, le premier programme. Dans tout le pays, nous essayons d'aller dans les marchés, c'est l'aider, aller dans les marchés.
Donc vous identifiez les femmes enceintes.
D'abord la sensibilisation s'opère au niveau des femmes et aussi des jeunes en général. Parce que
et des hommes aussi, parce que ce sont les pères de famille qui devaient s'impliquer dans le suivi de la grossesse de leur femme.
Tout à fait. La sensibilisation, en fait, elle s'applique à toute personne qui est en âge de procréer, homme et femme. Une fois qu'elles sont sensibilisées, nous essayons de faire un dépistage des examens, parce que les gens n'ont pas les moyens, sur place, après les avoir expliqués. Donc ça fait que chez nous, on a une base de données qui permet d'avoir les renseignements de la maman. C'est déjà un grand ce facteur, ce simple opération de connaître son groupe sanguin, de connaître elle a des tendances à saigner ou des tendances à mal réagir à tel médicament, ces facteurs-là diminuent sensiblement. Donc ça devrait être une politique généralisée, c'est le suivi dès la conception, même avant, de la maman jusqu'à l'accouchement, qui diminue les chances. Vous venez à l'accouchement, vous avez déjà un dossier qui a tous les examens. S'il y a des médicaments qui doivent intervenir, les avoir sur place.
Vous savez qu'il n'est pas facile d'utiliser sa faiblesse comme une force. Comme vous l'avez fait. Il y a beaucoup d'hommes qui sont dans votre situation, mais qui sont déprimés ou qui en veulent à X, Y. Quel est le conseil que vous pouvez donner à ces personnes-là? Comment est-ce que ces personnes peuvent se relever, se remettre debout et de démarrer une nouvelle vie? Pas forcément comme on entend prendre une femme ou comment, mais comment est-ce qu'ils peuvent faire de leur faiblesse une force comme dans votre situation?
Merci pour la question. C'est l'exemple, c'est le message que nous essayons de partager lorsque nous rendons visite aux familles qui ont subi, qui ont traversé le même drame. Je leur parle de mon exemple. Je dis, c'était pas facile. Mais moi, j'ai une seule motivation. Je me pose la question, si mon épouse était à m'écouter, elle pouvait voir tout ce que je fais actuellement. Est-ce qu'elle serait plus contente qu'elle me retrouve, qu'elle me voit en train de courir dans les tribunaux, essayer de blâmer tel, peut-être en tirer profit de sa mort et avoir de l'argent, c'est vrai. Mais je pense que ça, c'est plus, pardonnez-moi pour l'expression, un peu égoïste. C'est parce que tu penses un peu à toi comme individu. Mais tu penses à elle comme personne et tu penses à d'autres qui vont suivre. Je pense qu'elle serait plus fière si elle te voit en train d'aider d'autres. C'est comme si tu arrivais sur une scène où il y a des personnes en danger et tu ne fais rien. Tu te protèges toi-même, ok, toi tu te mets derrière le mur ou tu décides d'aider ceux qui sont en danger. Donc je pense que c'est toujours mieux d'agir que de penser à soi-même.
Merci beaucoup. Pour finir notre émission, toute la communauté ou bien toutes les populations, comment est-ce qu'elles peuvent contribuer à réduire la mortalité infantile et maternelle?
Oh, très bonne question.
Parce que des fois, on pense que c'est juste un problème de la femme enceinte ou du papa ou je ne sais pas de qui. Mais est-ce que les autres membres de la société ne peuvent pas aussi faire quelque chose?
Justement, je pense que, comme je vous ai dit, ça doit être un effort national. Mais ça doit être un effort de tout le monde parce que, j'ai remarqué, c'est lorsque un fléau ou un problème touche essentiellement nos mamans ou nos femmes, il n'a pas autant d'attention que si c'était un problème. Si, je donne toujours l'exemple.
Que si c'était quel problème?
Si le même problème affectait les hommes, croyez-moi, la solution serait déjà trouvée. Mais comme malheureusement, c'est dommage, c'est la réalité, nous sommes toujours dans une société dominance macho, masculine, on ne donne pas, on trouve que c'est, je trouve que c'est dommage, on minimise les décès des mamans. Ah ok, c'est dommage, ok, l'homme, comme l'homme a le droit de facilement prendre une deuxième épouse très juste après, des fois tout le monde te conseille après deux moi de prendre une... comme si la première
n'avait pas existé,
voilà, n'avait même pas existé, comme si son passage sur terre n'avait pas d'importance. Mais je pense que il faut se mettre à la place de l'autre et nous devons trouver un moyen d'éveiller une conscience, comment dire, je ne sais pas si c'est une conscience, mais un sentiment que ce soit pas seulement la victime. Il faut pas penser seulement à la victime, mais pense à ta sœur qui est encore en vie, pense à ta maman, ta tante, pense à toi-même, demain tu vas te marier si ça t'arrive. Donc si tu n'agis pas maintenant, tu ne pourras pas agir quand ça sera déjà fait.
Merci beaucoup d'avoir été notre invité dans les studios de La Voix de l'Amérique à Washington DC.
Merci à vous.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Vous venez de suivre notre discussion avec M. Valentin Kabatouré, président fondateur de Burundi Bwiza, une association qui combat la mortalité maternelle et infantile au Burundi. À présent, nous vous invitons à écouter Carnet de santé avec Linor Moudou.
Aujourd'hui dans Carnet de santé, un regard sur l'accès à l'avortement sans risque en Afrique et l'impact de la règle du bâillon mondial. Comment arrêter de fumer avec succès? Nous avons recueilli votre avis. Les médecins en République démocratique du Congo prennent des mesures pour lutter contre la maladie du sommeil. Enfin, c'est dans cette édition de Carnet de santé. Merci de nous rejoindre sur Carnet de santé. Chaque année, des millions d'avortements sont pratiqués par des personnes qui n'ont pas les compétences adéquates ou qui effectuent les procédures dans des conditions dangereuses. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 97% des avortements à risque ont lieu dans des pays sous-développés. En 2017, le président des États-Unis, Donald Trump, a prolongé la règle du bâillon mondial qui réduit l'aide aux organisations internationales impliquées dans des activités liées à l'avortement. Selon les observateurs, l'une des conséquences est la perte de l'accès aux soins de santé prénataux pour certaines femmes enceintes dans les pays sous-développés. Brian Padden de VOA décrit l'impact de cette règle du bâillon mondial.
Family Health Option Kenya a fermé ou réduit ses services de planification familiale dans tous les pays après avoir perdu 2 millions de dollars de financement depuis 2018.
La règle du bâillon mondial était également très stricte car elle ne permettait même pas aux organisations d'offrir la planification familiale, ce qui constitue fondamentalement notre mandat en tant que structure.
La règle du bâillon mondial des États-Unis bloque environ 8,8 milliards de dollars d'aide internationale en matière de santé aux organisations qui offrent des services d'avortement, des conseils d'avortement ou préconisent la libération des lois sur l'avortement.
Il n'y a qu'une poignée d'organisations qui refusent d'accepter de l'argent pour ces services, car le droit de tuer des enfants qui ne sont pas encore nés est plus important pour eux.
Toubaï a dit que les dons privés compensent les contributions annulées par le gouvernement américain, mais certaines organisations de santé en Afrique affirment qu'elles n'ont pas reçu suffisamment de fonds extérieurs pour compenser les pertes. Les opposants à la règle du bâillon mondial rejettent l'imposition de ce qu'ils qualifient de restrictions partisanes à caractère politique concernant l'offre d'informations et des traitements médicaux complets.
Donc vous demandez aux médecins de choisir entre la politique mise en place à Washington ou les décisions en matière de santé et d'éthique établies dans leur propre pays.
Selon les critiques, la règle du bâillon mondial fait plus de mal que de bien et une étude récente publiée par le journal Lancet Global Health a apporté une augmentation de 40% du taux d'avortement en Afrique au cours des périodes où les restrictions étaient en vigueur.
Pour en parler, nous joignons par Skype à Bujumbura Maken Fereza, coordinateur national du réseau SOS Femmes en Détresse, SOSFED au Burundi. Monsieur Fereza, merci d'accepter notre invitation.
Je vous en remercie aussi.
Quelle analyse faites-vous de l'accès à l'avortement sécurisé par les femmes en Afrique?
En Afrique, en général, l'avortement est très restrictif parce qu'il y a la loi contraignante dans la plupart des pays africains qui contraignent toujours l'avortement. Donc, les femmes en général, les jeunes filles en particulier, n'ont pas accès facile aux services complets d'avortement.
Alors, quels sont les services qu'offre le réseau SOSFED concernant l'avortement?
Nous fournissons l'avortement, nous faisons l'avortement médicamenteux et sécurisé. Nous offrons aussi les soins post-avortement. Là, nous servons aussi, nous donnons aussi les soins pour l'avortement incomplet. Et nous fournissons aussi la sensibilisation pour que les femmes et jeunes filles aient accès aux services d'avortement médicamenteux et sécurisé.
Mais l'avortement est une procédure qui présente aussi des risques, même quand c'est fait dans les meilleures conditions. Alors, n'est-ce pas là l'une des raisons pour plus de sensibilisation à titre préventif?
Ah oui, bien sûr que oui. Vous savez que le Burundi, c'est un pays chrétien dont la croyance pèse fort sur la question d'avortement. Donc, parler de l'avortement au Burundi, c'est un sujet tabou. Mais toutefois, au sein du réseau SOSFED, nous pratiquons la sensibilisation des jeunes en milieu scolaire et au niveau communautaire, juste pour barrer la stigmatisation et la discrimination liée aux questions de l'avortement. Là, nous procédons par la conscientisation des jeunes, des femmes, femmes et d'hommes, toutefois aussi quelquefois de certains décideurs politiques, pour que la question d'avortement soit une question à la une, pour que ça soit échangé même au niveau de la famille et au niveau communautaire.
Monsieur Ferreza, merci de nous avoir rejoints. Maken Ferreza est donc le coordinateur national du réseau SOS Femmes en détresse, SOSFED au Burundi. L'habitude de fumer est souvent difficile à arrêter. Selon les experts, la plupart des fumeurs développent une dépendance à la nicotine, une drogue naturellement présente dans le tabac. Cesser de fumer peut donc nécessiter plusieurs tentatives. Alors, comment arrêter de fumer avec succès? Echa Saraï a recueilli vos réactions à Dakar.
Je n'ai aucune méthode pour arrêter de fumer. Ça fait 40 ans que je fume. Mais franchement, fumer, c'est pas bon. Je veux arrêter. Si cela ne tenait qu'à moi, j'allais arrêter. Sur les emballages, ils écrivent que fumer, c'est pas bon pour la santé. La meilleure manière d'aider les gens, c'est d'arrêter d'en fabriquer.
Non, la cigarette, elle n'est pas bon. On fume ça seulement, bon, c'est pas bon. Oui, je voulais arrêter. S'il y a la moindre possibilité, oui, je fume seulement, bon. Vraiment. Tu sais, il y a trop de soucis. Parce qu'on fume la cigarette à cause de la souci. Oui, c'est ça.
Mon conseil à ceux qui fument, c'est tout simplement d'arrêter. Ce n'est pas bon de fumer aujourd'hui, ça ne le sera jamais. Ça nuit à la santé, ça joue sur ton cerveau et tu peux même devenir fou.
Je fumais avant, j'avais arrêté et puis j'ai repris maintenant. Là, je fume, mais je n'aime pas la cigarette. J'ai repris, mais ça ne me pose pas trop de problèmes parce que je fais du sport. C'est juste une question de volonté.
Les centres américains de contrôle et de prévention des maladies, CDC, ont les recommandations suivantes pour cesser de fumer. Obtenir l'aide d'un médecin, rechercher des conseils individuels ou en groupe, obtenir des traitements comportementaux. Certains médicaments pour cesser de fumer se sont avérés efficaces, notamment les thérapies de remplacement de la nicotine, telles que des inhalateurs et des médicaments sans nicotine en vente libre ou sur ordonnance. Selon les CDC, le conseil et les médicaments sont efficaces pour traiter la dépendance au tabac et les utiliser ensemble est encore plus efficace. La maladie du sommeil, également appelée trypanosomiase humaine africaine, est une maladie tropicale répandue qui peut être fatale. Elle se transmet par la piqûre d'une mouche tsetse infectée. En RDC, les médecins prennent des mesures afin de réduire le nombre de personnes qui souffrent de cette maladie. Suivons le reportage d'Anastasie Tudesh, notre correspondante à Kinshasa.
Kimwenza, sur les hauteurs de Kinshasa, dans ce faubourg rural et déshérité que l'on rejoint après 1h30 d'une route parfois impraticable, c'est jour de dépistage de la maladie du sommeil.
C'est une maladie qui a de graves complications, notamment neurologiques. Les malades présentent parfois des tableaux que la population qualifié de folie, avec des troubles de comportement, des agitations et autres.
À l'origine de la maladie et de sa propagation, un insecte, la mouche tsetse, et sa piqûre indolore.
Tous ces gens qui font la pêche, en fait, ils peuvent aussi attraper cette maladie parce que la mouche tsetse adore aller se positionner là où il y a l'ombrage et où c'est calme. Pour des raisons de survie, la population qui vit à Kinshasa va acheter des denrées vers les provinces de Bandundu et en revenant de là, ils amènent la maladie.
Cette mère de famille a emmené son fils pour en avoir le cœur net. Simon est conscient de ce à quoi il échappe.
En tout cas, maladie du sommeil,
Grâce aux campagnes de prévention et de traitement de la maladie par les unités mobiles, la THA et son éradication pourraient bien devenir une réalité. Anastasie Tudiesh, Kinshasa, VOA Afrique.
Si vous avez des questions ou pour toutes vos réactions, rejoignez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique ainsi que sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter @linormoudou.
C'est ici que s'achève notre programme « Votre santé, votre avenir ». Nous avons discuté avec M. Valentin Kabatouré, président fondateur de Burundi Bwiza, une association qui lutte pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile au Burundi. Vous avez aussi écouté Carnet de santé présenté par Linor Moudou. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Cheikh Thierro. Devant ce micro, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.